Quand les forces canadiennes ont été déployées en Afghanistan, très évidemment, on s'entend qu'on ne parle pas cette langue. Donc, ça prenait des collaborateurs ou genre de guides et d'éclaireurs pour être capables d'accompagner les forces armées canadiennes. Il y a donc des interprètes afghans, d'anciens combattants canadiens également, qui se sentent laissés pour compte. Le ministère de l'Immigration les laisse tomber, selon certains d'entre eux, parce qu'ils ont travaillé pour le Canada. On leur a promis de dire, écoutez, on va vous donner votre citoyenneté, vous pouvez devenir, après ça, des citoyens canadiens et arriver chez nous. Ça semble pas être le cas, en tout cas, ils s'en plaignent. On va parler avec Francis de Pierrebourg, qui, évidemment, connaît cette région-là. Il y a été à Kandahar, entre autres choses. C'est un journaliste d'enquête et notre collaborateur au 98.5. Fabrice de Pierrebourg, bonjour.
Bonjour, Jean-Luc.
Est-ce que ces interprètes afghans que l'on a utilisés, qui ont collaboré avec les forces canadiennes, ont raison de dire qu'ils sont laissés pour compte?
Ah, un peu, oui. Et puis, en vérité, il n'y a pas que les interprètes. C'est tout un tas d'Afghans qui ont travaillé non seulement pour les forces canadiennes, mais pour les forces américaines, françaises, allemandes, etc. Donc, en premier lieu, les interprètes, donc, dont le rôle était essentiel, parce que, comme vous le disiez, puis moi j'ai pu le constater quand je suis allé en 2007-2008 dans la province de Kandahar, on ne sortait jamais en patrouille ou peu importe sans des interprètes, parce que sinon il n'y avait aucune communication possible avec les habitants sur place, donc ils étaient essentiels. Mais il y avait aussi tout autour de ça des cuisiniers, ça peut être des chauffeurs, etc. Et tout ce monde-là aujourd'hui, effectivement, est menacé par les talibans, se sentent menacés par les talibans. Leur angoisse a monté encore d'un cran fin juin, quand on a retrouvé mort ce qu'on appelle les auxiliaires, finalement, de l'armée, mais qui a travaillé pour l'armée française. Il a été kidnappé par les talibans, torturé et tué. Et lui, ce qui était dramatique, c'est qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'émigrer en France, et on avait considéré que finalement, il courait pas de risque ou que son travail n'avait pas été essentiel. Donc à travers tous les pays, puis pas seulement le Canada, mais la France, l'Angleterre, les États-Unis, en ce moment, il y a une grosse campagne pour essayer de les rapatrier d'urgence, parce que les talibans contrôlent maintenant 50% du territoire. Et c'est évident que tous ces gens-là, qui ont travaillé pour les armées étrangères, sont menacés, même si les talibans, il y a quelques semaines, ont dit que à partir du moment où... c'est sûr qu'ils les considéraient comme des ennemis, ils l'écrivent, mais dès qu'ils abandonneront les rangs de l'ennemi, ils redeviendront des Afghans ordinaires, à condition qu'ils s'excusent. Puis on leur a dit qu'ils devraient exprimer des remords.
Ouais.
Sauf que l'urgence et la bureaucratie en général, ça fait jamais bon ménage, Jean-Luc. Puis là, effectivement, le Canada, par exemple, a annoncé en début de semaine qu'il mettait en place un programme. Mais il semble que ce programme est très compliqué. Aux grandes dames, d'ailleurs, entre autres, d'associations d'anciens combattants canadiens, de gens qui ont combattu là-bas, puis qui savent c'est quoi le rôle de ces gens-là. Et qui, l'un de ces groupes, d'ailleurs, a constaté que quand on va sur le site d'Immigration Canada, quand on demande, ils ont 72 heures pour remplir un formulaire, je pense, avec 10 documents à digitaliser, ils doivent avoir un logiciel qui, j'imagine, la plupart des gens n'ont pas en Afghanistan. Donc, c'est très compliqué, quoi. Puis moi, j'en ai rencontré, là, quand je suis allé à Kaboul, dont un qui a travaillé pour l'armée canadienne, et sitôt que je suis revenu à Montréal, sur WhatsApp, il m'a tout de suite écrit, c'était quasiment un message au secours, genre, « Monsieur Fabrice, aidez-moi, s'il vous plaît ». Ils ne savaient pas où frapper. Ils savent que le Canada annonce la mise en place d'un programme, mais s'ils appellent à l'ambassade, il n'y a rien qui répond. Ils doivent envoyer un courriel. Ça a l'air très compliqué, mais pendant ce temps-là, eux, ils ont la pression sécuritaire en arrière, quoi.
Le ministre qui est responsable de ça ici, c'est Mendicino, là, le ministre Mendicino. Mm-hmm. Il prétend, il dit... qui communique directement avec mon bureau. Mais ça doit... Il ne faut pas voir notre réalité comme identique à la leur, là. Communiquer avec le bureau du ministère. On a de la misère, nous autres, puis on est des organismes de presse.
Ben oui. Ben, c'est ça, exactement. Puis, je vous le dis, encore une fois, celui qui m'a écrit, avec qui je suis en contact, mais j'en ai rencontré un autre là-bas qui a travaillé pour l'armée française, ils ne savent pas pratiquement où frapper, quoi. Il faut imaginer, là, vous êtes à Kandahar ou dans un endroit isolé de l'Afghanistan ou à Kaboul. Ils entendent vaguement que, par exemple, le Canada va les accueillir, mais puis même moi, j'ai écrit au ministère en disant, mais c'est quoi le numéro ou l'endroit où pratiquement ils doivent
appeler,
ils doivent appeler ou contacter. Ça part de ça, donc c'est très complexe. Les Américains, apparemment, semble avoir compris l'urgence. Donc, ce qui se dessine, c'est que il y en a 19 000, je pense, qui sont bon à la fois des auxiliaires puis leurs familles qui ont fait demande pour aller aux États-Unis. Eux ont trouvé la solution, c'est-à-dire qu'en attendant que les procédures qui sont logiques d'immigration, de sécurité soient complétées, ils vont les sortir du pays une bonne partie, là, je pense, 2 500 ou 3 000 ces jours-ci, les envoyer dans une base probablement au Moyen-Orient ou etc. Le temps qu'ils complètent les formalités, mais au moins ils seront en sécurité. Donc il y a vraiment une urgence. Je veux dire, puis je vous le dis, en Afghanistan là, en ce moment c'est quasiment le chaos quoi.
Ben, ça me semble être ça parce que bon, les talibans reprennent de plus en plus de territoire, si ce n'est pas le contrôle total de la place. Moi, je veux bien que du jour au lendemain, parce que nous quittons et que les forces alliées quittent l'endroit, qu'ils disent maintenant nous sommes des propagateurs de la foi, de la paix. Mais je suis sûr qu'il y a des revanches qui vont se faire. Il y en a un qui dit ici, je vois dans le communiqué de presse, qui dit que son père a été assassiné à cause de son travail de collaborateur avec les forces qui étaient là pour la paix, en tout cas.
C'est clair, puis je vous le dis, il y en a un qui a travaillé pour les Français. Il s'est fait, parce que souvent, c'est ça la tactique, il y a des faux checkpoints sur la route, les talibans contrôlent tout le monde qui passe. Ils ont pris son téléphone, puis ils ont réussi à voir, malheureusement, il avait dû garder des documents, peut-être pour les envoyer, en tout cas, etc., puisqu'il était il avait fait une procédure judiciaire en France. Ils ont vu qu'il avait travaillé pour l'armée française. Et on a retrouvé son corps criblé de balles. Et l'interprète qui a travaillé pour les Canadiens à Kandahar, que j'ai rencontré à Kaboul, il reste tout le temps à la maison. Il me dit, je ne fais confiance à personne dans mon quartier. Tout le monde sait qu'il a travaillé pour la coalition et puis pour les Canadiens. Donc, à Kaboul, même si la ville n'est pas sous contrôle taliban, il y a des cellules quand même à la fois des talibans et du groupe armé islamique qui font des attentats régulièrement, qui abattent des gens, entre guillemets, qui collaborent avec le pouvoir. Donc, ils ne font confiance à personne, ils vivent reclus, ils veulent partir, mais ils ne savent pas comment faire, quoi.
Alors, je pense que nous avons une responsabilité envers ces gens qui effectivement, on n'aurait pas pu faire le travail de la même façon s'ils n'avaient pas existé, s'ils n'étaient pas là.
Oui, puis exactement, parce qu'il y a la barrière de la langue, comme vous le disiez, il y a aussi des côtés culturels, c'est des gens, bon, c'est des gens qui avaient étudié à l'université, évidemment, soit le français, soit l'anglais, soit l'allemand, etc., donc ils ont travaillé pour les armées en question. Mais ils vous aident aussi à comprendre l'environnement, ils vous aident je veux dire, c'est plus que des traducteurs, puis à la rigueur même un cuisinier, un chauffeur, tout ce monde-là, ils ont été, sont été des rouages essentiels de la coalition. Et c'est sûr qu'ils sont en première ligne de la vengeance, je veux dire, c'est évident, quoi, malgré les paroles des talibans qui disent qu'ils doivent, s'ils se repentent, on va les laisser en paix, ils ont absolument pas confiance dans ce genre de promesses, quoi. Mais il y a des pays, quand même, qui ont été plus, comme l'Allemagne, apparemment, à éviter de laisser à quasiment rapatrier tous ceux qui ont travaillé pour eux, quoi.
Fabrice, excuse-moi de t'interrompre. Vient de tomber sur les fils de presse une déclaration de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui déclare aujourd'hui, jeudi et à l'instant, que l'objectif du gouvernement est de faire venir le plus rapidement possible les Afghans qui ont aidé chez eux le Canada et qui font maintenant face à de graves périls, eux et leurs proches également. Elle répondait donc ainsi à certaines critiques que le ministère de l'Immigration a reçues. Et ça devrait se remplir dans les 72 heures pour les Québécois admissibles. Alors, elle vient de faire cette déclaration. C'est un long texte, bien sûr, mais on voit que Mme Freeland, qui est la vice-première ministre du Canada, veut intervenir et accélérer le processus, j'ai l'impression, pour sauver les vies de ces gens-là qui sont dans un grand péril, comme elle le reconnaît elle-même.
Oui, effectivement, mais le 72 heures, c'est le délai dans lequel ils doivent remplir le formulaire.
Oui, mais là, il paraît
que bien, et je vous le dis à la base, pour les gens là-bas, c'est vraiment bureaucratique. Je pense que pour eux, ce qui serait simple, c'est un numéro à appeler à l'ambassade du Canada à Kaboul.
Et puis un vol qui dit, ben, on va embarquer, venez-vous-en.
Ben, qu'ils les sortent au moins d'Afghanistan. Puis je comprends qu'on doit faire des formalités normales d'immigration, de vérification des antécédents de sécurité, etc. Mais les Américains, leur stratégie, finalement, c'était de dire, mettons-les dans une zone hors Afghanistan, en attendant qu'ils complètent les formalités pour être admis aux États-Unis, quoi.
Ben, merci beaucoup de ces précisions et de nous avoir traduit la réalité que tu as côtoyée là-bas et le risque réel que ces gens-là vivent à ce moment-ci pour avoir été des collaborateurs aux forces canadiennes et aux forces alliées de façon générale en Afghanistan. Merci Fabrice de Pierrebourg.
Merci Jean-Luc.
Merci, au revoir. On s'arrête pour une pause et je reviens avec un producteur de cinéma, Christian Larouche, qui s'attaque à quelque chose d'assez compliqué, je pense, il va me l'expliquer. La vie de Gilles Villeneuve, le pilote qui a perdu la vie en 82 à Zolder en Belgique, qui était un héros d'ici et évidemment un héros même pour les Italiens de la Scuderia. On s'arrête pour une pause.